À l'automne dernier, je suis allée dans un tout-inclus. Non, non, pas à Cuba. À Montréal, plutôt au théâtre La Licorne. Oh, je m'ennuie du théâtre. Tout-inclus, c'est une pièce de théâtre documentaire qui a été écrite par François Grisé, que je reçois à l'instant. François est auteur, comédien, directeur général et artistique de 1 et 1 font 1000, et il a fait une incursion dans les résidences pour aînés. Bonjour François.
Bonjour Chantal.
François, on a à peu près le même âge, pourtant il y a déjà 6 ans, vous avez décidé d'aller vivre dans une résidence pour aînés pendant un mois. C'était quoi le but? Comment cette idée-là est née dans votre esprit?
Bien, à ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais ce que je tentais d'identifier ou de nommer en faisant le séjour d'immersion que j'ai fait à la résidence des Jardins du patrimoine de Val-d'Or, c'est que j'avais besoin de vivre ce que vivent les personnes qui vivent dans une résidence privée pour aînés, pour mettre le doigt sur la nature de mon malaise devant ce choix-là que mes parents avaient fait. Et moi, j'avais accompagné mes parents dans ce choix-là, bien sûr, mais c'est seulement un an après qu'ils aient décidé de déménager là que j'ai fait ce séjour-là. Mais c'est seulement après qu'ils aient déménagé là que j'ai fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Quel est ce choix qu'on a fait ensemble d'aller vivre dans une résidence privée pour aînés? Qu'est-ce que ça dit de nous? » Puis, ultimement, maintenant, après toutes ces années, qu'est-ce que ça dit de notre société d'avoir fait ce choix-là? Et puis, je suis encore convaincu que d'aller faire cette immersion-là, pour moi, c'était vraiment la seule façon de le comprendre, en tout cas, d'un point de vue que peu de gens avaient expérimenté avant, là.
Bien justement, on va parler un peu tout à l'heure des différentes avenues qui s'offrent à nous parce que c'est le début d'une aventure pour vous avec cette pièce-là. Mais pour cette incursion-là, je dirais une aventure quasi anthropologique, qu'est-ce qui vous a le plus marqué?
Ce qui m'a le plus marqué, en tout cas, ce qui m'a fait un choc dès le départ, c'est de constater combien l'environnement était, moi, ce que j'appelle monoculturel. C'est-à-dire, on le sait qu'il y a juste des vieux dans une maison de personnes âgées. Moi, je les appelle les vieux parce que je considère d'avoir mon... J'ai le droit de les appeler les vieux parce que c'est parce que j'ai vécu avec. Mais de constater que, oui, il y avait juste des vieux dans cette maison-là, que quand je regardais autour de moi, il n'y avait plus de diversité comme dans la société, mais il y avait juste des gens d'à peu près le même âge, en tout cas au moins 75 ans et plus, jusqu'à beaucoup plus. Puis l'autre affaire qui m'a frappé, en tout cas dès le départ, c'est qu'il n'y avait rien à faire. C'est un lieu où tout à coup, on se fait vendre ça comme une vacance un peu éternelle, ou en tout cas une vacance jusqu'à la fin de nos jours. T'sais. Donc ça m'a beaucoup frappé ou choqué dès le départ. Puis par la suite, ce qui m'a frappé, c'est le besoin de parler des gens et l'envie des personnes qui vivent, qui sont rendues dans la partie du vieillissement, qui vivent les réalités du vieillissement, de me parler de leur parcours de vie, mais de me parler de ce qu'ils vivent dans la résidence, mais de ce qu'ils vivent devant les réalités du vieillissement. La mort prochaine, la défaillance du corps, mais aussi les nouvelles amours, les rencontres qu'ils ont faites, les pertes qu'ils ont vécues. Donc, autant dans le positif que dans le négatif, je vous dirais que ce qui me marque encore et ce qui me motive à continuer, parce que la pièce que vous avez vue à la Licorne, c'était le début, ben c'est les rencontres que j'ai faites et c'est les voix des aînés qu'on entend peu, même si on en parle beaucoup, les voix des aînés sont peu entendues. Souvent, on leur demande pas vraiment leur avis, mais certainement, ils ont beaucoup de choses à dire et ils ont beaucoup d'idées et de vécu pour nous parler de ce qui pourrait être la suite là, devant les réalités du vieillissement.
C'est un peu l'objectif de cette émission-là, de donner voix au chapitre, aux aînés. Mais j'ai envie, tu dis, bon, tu vois, je t'ai tutoyé. Donc, je vais continuer comme ça, avec cette proximité-là. On s'est déjà parlé dans le passé. J'ai moi-même vu ta pièce qui m'a... troublée et fait rire aussi, entre autres, par la présence de Marie-Ginette Gay. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Marie-Ginette, c'est l'adorable comédienne qui joue la mère de François Morancy dans Conversation avec mes parents à Radio-Canada.
Ouais.
Et elle a une expression dans cette pièce-là. Est-ce que tu sais à quoi je réfère, François?
Ah, mon Dieu, non, je dois t'avouer que non.
Quand elle dit « l'âge d'or », c'est une expression de marde.
Ah oui. Ben, tu sais, c'est parce qu'on s'enfarge un peu dans les fleurs du tapis, hein, autour de comment on appelle les gens qui ont 65 ans et plus. Parce que d'abord, quand on a 65 ans et plus, on n'est pas nécessairement vieux aujourd'hui. C'est le début de la partie de la vie où on a... le compte des âges est plus élevé. C'est vrai que c'est nouveau que 65 ans, ce soit jeune dans la réalité des humains. Donc, tu sais, l'âge d'or, ça faisait référence techniquement à le moment où on peut apprécier la vie. Hein. C'est un concept qui fait beaucoup référence à la retraite, à ne rien faire. Mais moi, ce dont je me rends compte, je pense que ce que j'essaie de dire en disant que c'est une expression de marde, c'est que ça rend pas compte de la diversité des expériences. Puis c'est pour ça que moi, dernièrement, j'ai décidé d'essayer, ben moi je dis souvent les vieux, parce que comme je dis, c'est, je trouve que ça dit ce que c'est, mais j'aime bien parler de la réalité des personnes vieillissantes, parce que ça nous inclut tous, hein, on est tous, peu importe l'âge qu'on a, des personnes qui sont en train de vieillir, de croître, puis ça nous amène à une partie qui est la fin de la vie, qui est très longue maintenant. Donc moi, je trouve que quand on parle de l'âge d'or, c'est comme si on disait qu'il fallait absolument que ce soit quelque chose de le fun. Alors que la réalité des aînés, c'est vrai, ils ont de la sagesse, ils sont des aînés, ils sont des vieux, mais ils sont aussi des bénévoles, des participants à la société, des aidants naturels, des gens qui prennent soin de leurs petits-enfants, de leurs enfants. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup encore à dire et à faire dans la société, à un autre rythme peut-être, avec des moyens qui sont différents, qui sont moins performants ou qui sont moins visés vers la performance. Mais certainement, moi, je commence à avoir une sensation et un regard sur le fait qu'ils ont encore beaucoup à contribuer. Puis les images sur lesquelles on s'accroche ou sur lesquelles on est dans le déni, bien, c'est ceux qui vivent des vieillesses très difficiles. Perte cognitive, grande maladie, grande perte physique. Mais c'est sûr que ces gens-là nous font peur parce qu'ils représentent des aspects du vieillissement qui sont épeurants, mais qui font partie de la vie puis qui font certainement pas partie de l'âge d'or. Ça, c'est sûr.
Ben, tu dis qu'à la résidence où tu étais, ce qui t'a frappé, c'est le fait qu'on n'a rien à faire. Puis en même temps, on nous a souvent dit que la retraite, c'était le moment d'apprécier la vie. Donc, je pense que ce que tu constates, c'est cette envie-là de contribuer, justement. Il y a pourtant des résidences où c'est agréable de vivre, là. C'est pas tous les parents, de toute façon, qui voudraient aller vivre chez leurs enfants.
Moi, je dis que c'est la grande majorité des gens qui voudraient pas aller vivre chez leurs enfants et vice-versa. À moins d'avoir un ensemble architectural, une maison qui est organisée pour que ça puisse se faire, pour qu'on reste dans des familles qui sont nucléaires. Hein. Ça fait des dizaines d'années maintenant qu'on vit de façon nucléaire, c'est-à-dire qu'on forme, même en solo, on forme une petite famille, puis c'est tout. Puis bien sûr, les résidences sont pour la plupart d'entre eux des milieux de vie qui sont très propices. Sauf que, tu sais, dans l'expérience, moi, de mes parents, ce qui est arrivé, c'est que on s'est embarqué, eux et moi, dans un choix où on n'avait pas réfléchi. On avait un peu gobé le plan de marketing de cette affaire-là qui nous dit « Vous allez être bien, vous ne serez plus tout seul, vous n'aurez plus rien à faire, ça va être super le fun. » Mais on n'avait pas pris le temps de s'éduquer, de réfléchir sur le fait que même si ce sont de très bons et de très beaux milieux de vie très souvent, c'est quand même un grand passage et c'est quand même une grande cassure dans une vie. On parle de l'expression « casser maison ».
Oui.
Bien, qu'on s'en aille dans un milieu agréable ou pas, c'est quand même un très grand pas à faire. Et qu'on le veuille ou non, souvent, on n'y pense pas à ça. On se dit « ah, ça va être facile, ah, ça va se faire tout seul, on nous le vend comme ça un peu ». Mais il y a un accompagnement nécessaire et je crois qu'il y a une éducation et une prise de conscience devant le fait que peu importe les contextes favorables ou même défavorables, il faut penser à notre affaire un peu, il faut s'éduquer. Puis il ne faut pas être tout seul devant le choix de comment on veut habiter notre vie quand on veut être vieux.
Habiter notre vie, habiter notre vieillesse. J'ai lu ça sur la page Facebook de ta compagnie théâtrale, mm-hmm. 1 et 1 font 1000. Et dernièrement, tu as interpellé les gens en leur demandant qu'est-ce qui vous donne espoir pour l'avenir des personnes vieillissantes au Québec. Et j'étais mm-hmm. curieuse de voir qu'est-ce qui en est ressorti.
Bien, il y a des gens qui sont assez pessimistes, qui disaient ben rien. Bon, là, je trouve que ça, c'est un peu de voir la vie en noir et blanc. Mais ce qui ressort beaucoup, c'est l'action citoyenne, la responsabilisation à un niveau personnel, mais à un niveau aussi de petites cellules dans nos familles, dans notre voisinage, dans notre communauté. Ce qui ressort aussi, c'est de pas justement gober la pilule du modèle préfabriqué, prémonté pour nous, mais de se demander qu'est-ce qu'on veut, nous? Qu'est-ce qui est à inventer? Qu'est-ce qui est à imaginer qu'on n'a pas imaginé encore? Et je pense que c'est la crise sanitaire qu'on vit actuellement va faire réfléchir beaucoup de gens en rapport avec le modèle et les choix qu'on peut faire pour nous. Si je te dirais que c'est ça qui résume l'espoir que les gens ont, c'est qu'on en parle, qu'on y réfléchisse, qu'on y pense, qu'on imagine, puis qu'on se déresponsabilise plus. C'est-à-dire que souvent, on se dit « Ah, ben ils vont prendre soin d'eux autres. Ah, ben le gouvernement va s'en occuper. » Et c'est vrai, je pense que toutes les infrastructures et toutes les infrastructures et tous les systèmes doivent répondre. Mais il y a, avant toute chose, une réponse personnelle et citoyenne qui peut changer beaucoup, beaucoup de choses. Et je parle pas juste des gens qui sont pas encore très âgés, mais dans une relation qui va dans les deux sens. Moi, j'aide mes parents, mais mes parents m'aident à leur façon, et vice-versa. Moi, j'aide mon voisin qui est âgé, mais mon voisin âgé peut m'aider.
Absolument. Donc, c'est l'intergénérationnel.
Oui, oui.
Et avant de te demander de nous présenter ta chanson, j'ai envie que tu nous parles brièvement du prochain chapitre, parce que tout inclus, justement, c'était le premier chapitre, et je t'entends dans l'idée de se réinventer, de considérer d'autres avenues. Donc, de quoi cette nouvelle pièce-là ou la continuité va-t-elle parler?
Bien, là, il y a 4 chapitres auxquels tu as assisté à l'automne dernier. Donc là, il y a déjà 2 chapitres qui sont écrits, qui tracent très sommairement l'histoire des personnes âgées, le milieu ou le système économique dont ça fait partie. Et ensuite aussi, comment justement on met en marché ces produits-là de consommation, de location. Et puis les 2 derniers chapitres qui restent à écrire tournent autour de comment ça se fait qu'on parle pas de ça, comment ça se fait qu'on a peur de ça, qu'on est dans le déni de ces réalités-là, comment on peut en sortir. Et ensuite, bon là, va se pointer à l'intérieur de la pièce, bien sûr, maintenant la crise sanitaire actuelle, qui, selon moi, devient l'occasion, dans l'histoire que je veux raconter, de vraiment, justement, se demander, comme j'en parlais un petit peu plus tôt, mais qu'est-ce que je veux? C'est quoi les autres options? Est-ce que la maison, les résidences privées pour aînés, c'est quelque chose qui me convient puis qui est très bien pour moi? Ou est-ce que moi, je veux autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres modèles qu'on a inventés, imaginés dans d'autres pays, dans d'autres cultures qui pourraient me correspondre mieux? Et comment est-ce que je peux, avec ma famille, avec les gens qui m'entourent, faire ce choix-là? Et je reviens toujours là-dessus. Là, tu sais, pour moi, la dernière partie de la pièce qui donne de l'espoir, c'est qu'à un niveau personnel, citoyen, à un niveau systémique, syndical, gouvernemental, tout le monde puisse se mettre ensemble pour inventer des nouvelles structures et faire en sorte que le plus possible, hein, parce qu'il n'y a jamais de situation parfaite, mais de faire en sorte que chacun puisse avoir voix au chapitre puis prendre une décision plus éclairée aussi.